Eve du Chemin, vous allez passer la soirée à Avignon pour accompagner l'avant-première de Temps mort, qui est votre premier film de fiction qui sort sur les écrans le 3 mai prochain. Avant la fiction, vous avez beaucoup travaillé dans ce qu'on appelle le cinéma du réel, notamment vous avez tourné deux films sur le milieu carcéral, un qui s'intéressait aux résidents et un autre qui s'intéressait au personnel. Alors peut-on dire qu'il y a un lien direct entre cette première fiction et les deux films dont je viens de parler ?
Évidemment oui, en fait l'univers de la prison fourmille d'histoires bien évidemment, tous les mètres carrés, et c'était aussi intéressant de passer du temps avec les personnes détenues qu'avec une directrice de prison pour hommes. Et je savais qu'il fallait que je quitte ce monde carcéral absolument pour continuer mon chemin, ma découverte de la société dans laquelle j'habite. Mais il y avait quelque chose qui me taraudait, j'étais pas allée jusqu'au bout, c'est-à-dire en faisant le film sur la directrice, j'étais vraiment du côté de l'autorité, c'était pas simple de partir comme ça. Et en fait, c'est aussi simple que ça, j'avais envie d'imaginer un film où les détenus pouvaient ouvrir cette porte de métal et sortir. Et le fait est que j'avais travaillé avec un jeune détenu qui était devenu mon assistant caméra, qui avait obtenu sa permission pour la première fois et qui n'était pas rentré de permission et qui avait été retrouvé deux semaines plus tard en bas de chez lui. Et longtemps m'a travaillé cette idée de savoir ce qui était passé par sa tête, de prendre le risque de rester deux semaines de plus chez sa mère, quitte à prendre six mois supplémentaires de prison, et que ce rapport au temps n'était pas du tout le même que nous qui étions à l'extérieur. Et puis j'ai commencé à prendre des notes, et puis d'autres anecdotes de ces gens rencontrés sont venues, et puis j'ai commencé à écrire un scénario sans le savoir, et puis plus ça avançait, plus c'était évidemment de la fiction, parce que les scènes qui me bouleversaient le plus de voir à l'écran, c'est des choses que ma caméra documentaire ne s'autoriserait jamais à filmer, notamment rentrer dans les chambres à coucher, filmer des détenus vouloir rentrer en prison parce qu'ils se sentent plus à l'abri dedans que dehors. Plein de petites choses comme ça qui me hantaient, et je pense qu'après il était temps dans mon travail cinématographique de m'autoriser à faire un film plus conséquent avec une équipe, avec plus de financement, et je me suis lancée dans cette grande aventure qui m'a pris presque 7 ans.
Le personnage qui a été le déclic du film, je pense que c'est le caractère de Colin dans le film, mais il y a deux autres personnages, c'est Amouzine et Bonnard.
Oui.
À quel moment est arrivée l'idée du triptyque ?
Eh bien, dès le premier jour. En fait, Amouzin, c'est... J'ai fait un film avec les détenus sur la pratique du sport pour ceux qui ont pris des longues peines. Et donc, c'était au final un film assez intime parce que chacun pratique le sport pour tenir bon dans leur tête, pour que cette peine hyper longue prenne un tout petit peu de sens, ou en tout cas qu'ils aient encore la maîtrise du temps. C'est toujours la même question. Et il y avait un vieux monsieur qui était incarcéré depuis 25 ans, qui était oxyménage et qui s'occupait du linge des détenus qui n'ont pas de famille. Et je me souviens de ce jour-là, donc je connais presque rien de lui, ce jour-là où il était en train de regarder le tambour de la machine tourner et tourner et tourner, et puis il me dit « en fait, il faut que je me dépêche de sortir pour m'occuper de mes enfants ». Ça m'a bouleversée de me dire, mais cet homme rêve aussi de quotidien, sauf que ça fait 25 ans qu'il est là, donc qu'est-ce qu'il attend encore de pouvoir apporter à ses enfants, voilà. Et pour Bonnard, c'est une scène que j'ai pas mise dans mon documentaire sur la directrice, mais c'est un homme qui passait en commission de discipline, qui avait cette espèce de gouaille joyeuse d'un mec un peu médicamenté, un peu malade psychique, mais en même temps... plein de vie, qui essayait de se justifier en faisant des pieds et des mains du fait qu'il était rentré en retard de permission parce qu'il disait que l'administration pénitentiaire lui avait pas donné tous les médicaments dont il avait besoin pour le week-end et qu'il avait trouvé une solution en famille. Et évidemment, ces familles-là, ça m'a aussi longuement travaillé. Évidemment, les familles payent les frais de leur absence, doivent gérer ces mecs le temps d'un week-end. En fait, ces trois petites anecdotes ont émergé tout de suite dans mon cahier, et en fait, après des longues batailles d'écriture, ils n'ont jamais réussi à en partir. J'ai essayé des fois qu'il n'y en ait qu'un, et en fait ce tressage de ces trois histoires me paraissait forte, importante et puissante. Et maintenant que j'ai fini le film et que je commence à le montrer, j'ai eu raison, je sais ce que je cherche derrière. C'est-à-dire à travers des histoires de narration simple. C'est pas mon rôle de donner à penser aux gens, est-ce que la prison c'est bien, c'est mal. Mais le fait qu'il y en ait trois fait qu'on ressort de ces histoires de pure narration fictive, en ayant vu trois hommes se bagarrer et être brisés à des endroits similaires, qui fait que quelque part, on a un goût en bouche en partant de là, en se disant « tiens, c'est étonnant comme la prison fracasse les humains au même endroit », alors que ces trois hommes n'ont pas du tout le même âge, ne sont pas du tout les mêmes. Voilà.
Alors, votre film, il est très factuel. Il s'étend sur un jour et demi, on va dire, du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi. Samedi, dimanche, c'est bien séparé. Ils réintègrent leur famille. Moi, ça m'a fait une drôle d'impression en tant que spectateur, c'est que plus le film avance... Moins on s'intéresse presque aux trois personnages, et plus on s'intéresse à leur famille, à leur environnement. Et notamment, il y a quand même un choc de génération avec les enfants, que ce soit le fils de Bonnard ou la fille d'Amouzine, Est-ce qu'on peut parler de cruauté, la manière dont ils parlent à un moment à leur père ?
En fait, vous avez le droit de dire les mots que vous voulez dessus. En fait, chaque acteur a une liberté d'agir tant qu'il a quelque chose de juste. Je voulais juste qu'on ne soit pas dans le cliché du rejet. C'est quelque chose de plus compliqué que ça. Quand on aime quelqu'un profondément, sauf qu'il nous a manqué, on peut être furieux contre lui tout en l'acceptant. Et pour moi, j'ai essayé de travailler en creux dans ce film que des sentiments contradictoires comme ça. Donc oui, c'est un choc des générations, mais c'était chaque personne qu'il va rencontrer à l'extérieur lui rappelle qu'il était avant et lui rappelle son absence dont il est responsable. Mais rappelle aussi toutes les déflagrations que ça provoque de retirer des hommes de la société des humains et qu'on les lâche pendant 48 heures alors qu'ils sont complètement inadaptés. Donc c'était surtout ça que j'avais envie de travailler en creux à travers les relations des familles et de ces détenus qui sortent en permission. Et puis il y avait aussi la possibilité, moi je trouve ça bien que vous souleviez les jeunes, mais en fait il y a ces trois personnages principaux, mais libre au spectateur au final de s'identifier à qui il a envie, parce qu'il y a les jeunes, mais il y a aussi les vieux parents qui reçoivent un détenu qui est encore d'une grande énergie vitale et assez ingérable. Et je trouvais que ce choc de génération aussi c'était intéressant. En fait ça s'appelle temps mort, cette notion du temps qui est passé, qui se rattrape plus, ou qu'est-ce qui reste du temps possible de ce qu'on peut encore vivre ensemble pour le suite de notre vie. C'est vraiment la question qui travaille toutes les scènes et donc toutes les relations les uns avec les autres.
Avec Colin, il y a une scène assez longue d'ailleurs qui se déroule dans une chambre couchée et qui relève quand même d'une très très grande intimité. Et en même temps, ça se passe absolument pas comme on pourrait l'imaginer au départ.
Ben, moi, je suis contente de vous avoir surpris. Après, c'est une scène clé du film, donc c'est vrai qu'on ne peut pas complètement tout dire. Mais c'était important pour mon cahier des charges dès le départ, même si le sujet est assez grave, c'est-à-dire on parle de détenus, longue peine, qui ont une permission. Ok, il y a un nombre incalculable de soucis qu'ils vont devoir régler, mais il y a aussi des scènes de l'ordre de la joie, de la surprise, de l'inattendu. Enfin, qu'est-ce que c'est que la beauté de l'humanité si ce n'est de vivre des choses avec les autres à un endroit qu'on n'avait pas imaginé? Et si vous non plus vous ne l'aviez pas imaginé, bah pour moi j'ai gagné mon pari. Vous voyez ce que je veux dire? Toucher du doigt des sentiments qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est même notre travail à tous quand on raconte des histoires. On a tous des histoires de famille, des sensibilités singulières. Essayons d'emmener les autres à vu des émotions qui nous touchent beaucoup et qui sont très complexes, et d'arriver à les emmener sur cette piste de danse-là.
Les corps sont très importants dans votre film. Bonnard, vous le qualifiez d'ogre joyeux. C'est vrai qu'en plus, c'est Carmine Le Clou, qui a quand même une masse physique assez impressionnante et assez débordante d'une certaine façon. Il y a Amouzin qui s'entretient, enfin voilà, qui fait des pompes et tout. Et Colin, il veut être beau, paraître bien. Cette préoccupation du corps, de l'apparence, c'est lié aux détenus, c'est lié aussi à votre regard de cinéaste, puisque quand même, vous êtes toujours très très près des personnages, près de leur visage, vous leur collez presque.
Les deux choses coexistent, parce qu'en fait, c'est toujours l'idée de se mettre à la place d'eux. Et moi, tous mes films, que ce soit de la fiction ou du documentaire, le pari qui m'amuse le plus, c'est d'emmener le spectateur à faire une expérience de l'autre. Et donc, se mettre à la place d'un détenu qui sort pour 48 heures, il a envie d'être le plus beau possible. Il a envie d'être pas forcément stigmatisé et vu avec un numéro d'écrou écrit sur son front. Donc oui, ils préparent leur tenue pour retourner dans le monde des humains et si possible qu'ils soient acceptés et qu'ils soient reconnus. Et donc effectivement, cette apparence physique, elle avait son rôle. Après, comme c'est une histoire chorale, on a peu de temps pour expliquer qui ils sont. Donc leur corps raconte pour eux beaucoup de choses. La manière dont ils sont vus aussi par leurs proches raconte aussi beaucoup de leur histoire. Et pour moi, l'histoire des peaux, c'est une identité. Et pour revenir à filmer serré, ça revient à ce que je disais au début, c'est que c'est une recherche cinématographique que j'ai de film en film. D'habitude, c'est moi qui cadre. Là, j'avais un chef opérateur parce que j'avais beaucoup d'acteurs à gérer. Mais je trouve ça bien de laisser aussi de la place possible aux spectateurs de faire un voyage sensible, sensuel, à travers des peaux qui vont en prendre plein la gueule ou qui vont recevoir des embrassades. Et en fait, être avec eux permet de se mettre à leur place, mais à un endroit moins intellectuel, plus sensitif, quoi. C'est une recherche en tout cas. Moi j'ai envie d'être près des gorges quand Amouzin se met à respirer dès qu'il est enfin dehors, par exemple.
Au niveau de la distribution, alors il y a quelques noms connus. Enfin, je pense à Karim Leclou, qu'on a vu notamment dans Goutte d'or, où il est absolument formidable, dans un rôle totalement différent. Et puis il y a un très grand acteur qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines et qui a été ici même, là, de l'autre côté, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, aux côtés de Guy Casiers, c'est Johan Leysen. Comment avez-vous choisi ces acteurs? Et puis, alors, si j'ai bien compris, il y a des pros et pas des pros dans la distribution.
En fait, donc, comme moi, je viens pas du monde de la fiction, j'ai pas du tout cherché des acteurs professionnels d'office. Les choses se font un peu par hasard. Et donc, par exemple, Karim Leclou, à l'époque, il n'était pas très connu et peu identifiable. J'avais vu un film assez improbable qui s'appelle Coup de chaud, où il joue un idiot du village. Et je crois que dans le même mois, et par hasard, j'avais vu un film qui s'appelle Le monde est à toi, où il joue un peu un... Il est très drôle. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce type a un corps documentaire et a une curiosité de jouer des mecs un peu à la marge, un peu à côté de leur pompe, où peu d'acteurs s'autorisent à jouer les losers. Mais pas des losers caricaturaux, des losers avec une âme, avec une profondeur. Et donc, je l'ai rencontré. Je suis allée boire un café avec lui. Et alors, c'était une rencontre. En fait, j'avais l'impression de rencontrer un pote de collège qui me chambrait comme si on se connaissait depuis toujours. Et en fait, je voyais en lui mon bonnard exceptionnel, en mieux, en voyant toute cette capacité dingue vers laquelle il serait capable de tirer mon personnage. Ben, il a pris 20 ou 30 kilos, alors je ne lui ai rien demandé. Mais parce qu'il s'est laissé habiter par cette histoire. Et en fait, notre bonnard, il est entre ce que j'ai écrit et ce que son corps et son jeu sublime proposent. Et qu'on n'a pas arrêté à chaque séquence de tourner autour de ce personnage en augmentant le curseur ou en le baissant. Il m'a fait un cadeau magnifique, il m'a laissé le choix au montage de travailler le curseur de ce personnage assez excentrique qui va craquer et perdre les pédales au moment où je le voulais, c'est-à-dire retenir ça, ce qui fait toute la force de ce personnage qui est une bombe à retardement, quoi. Donc en gros, une fois que j'ai trouvé les trois... Mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas une liste de comédiens célèbres pour aller en haut de mon affiche. Donc une fois que je trouve Karim Leclou, par exemple, je cherche une mère, très important, la mère de Bonnard. Et puis ben, dans mon idée, c'était ma propre belle-mère, par exemple, qui est d'origine portugaise et qui, pour moi, depuis le début, c'est la mère de Karim Leclou. Bon, le fait est qu'elle n'a pas pu faire ce film et que dans les castings de figuration d'une femme qui devait faire une femme de ménage, il y a une blonde, donc pas du tout brune, magnifique, très concrète, qui n'a jamais joué de sa vie et qui me bouleverse, qui s'appelle Blanka Ryslinskova. Et le fait est que dans les pères de Bonnard, Johan Lezen était sur la liste de gens que j'avais voulu rencontrer, sauf qu'il fait partie de la bande des blonds. Et que moi, j'étais partie sur ma belle-mère qui est dans la bande des bruns. Mais je vous jure que des fois, ça se joue comme ça. Et le fait est qu'il était rentré d'une tournée de théâtre au moment où j'ai revu Blanka dans le rôle de la mère. Donc j'ai rencontré Johan Lezen, qui est un grand acteur flamand. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis dans la rencontre immédiate documentaire. Est-ce qu'on va se sentir ? Est-ce qu'on va être capable de danser ensemble ou pas ? Et donc, je les ai reçus ensemble et je leur ai demandé d'improviser, de jouer en couple. Qu'est-ce que c'est l'attente de devoir recevoir son enfant qui est malade psychique, qui est en prison, qui a commis pas mal de méfaits ? Et comment on arrange la maison ? Est-ce qu'on cache les bijoux ? Et en fait, leur impro était géniale et en fait, le couple existait. Et donc, en fait, ça s'est arrêté là. Voilà comment on constitue une constellation d'acteurs avec des non-acteurs. En fait, pour moi, des gens qui ont cette vérité en eux d'être que ce qu'ils sont quand bien même la caméra tourne, pour moi, c'est des acteurs aussi. Ils n'ont pas assez de technique pour jouer des rôles et très éloignés d'eux, mais voilà, et en fait, ils se sont raccordés ensemble et ils étaient super beaux. Et quand bien même c'était des blonds, ben, c'était des parents magnifiques pour Karim.
Tout à l'heure, vous avez eu une expression dans une de vos réponses de corps documentaire. Ouais. Comment ça se passe exactement, la construction d'une fiction, de quelque chose où on peut tout imaginer et en même temps avec cette volonté quand même de rester proche d'une forme de documentaire?
En fait, c'est un long travail d'écrire et de financer un film. Et après, préparer un tournage, c'est comme préparer une fête. Et donc, on a envie d'inviter des convives qu'on aime et qu'on aime filmer. Donc, par exemple, les castings, c'est moi qui filme. Quand je parle de corps documentaire, c'est des corps qui mentent pas, qui se camouflent pas derrière des façades de je ne sais pas quoi. On regarde leur corps, leur peau et on se raconte plein d'histoires. J'adore les mains de la mère de Karim Leclou dans le film. Des corps documentaires, pour moi, c'est des corps qui font voyager et qui font que, mis au sein d'une histoire, ils sont aussi importants que les costumes, que les décors, que les liens entre eux et qui racontent beaucoup. Pour moi, c'est ça. Évidemment, ça m'intéresse plus des acteurs marqués que des gens tout lisses. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on voit l'acteur, j'ai envie qu'on voit le personnage. Je suis pas en train de faire une espèce de guest list de stars. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit dans des familles qui fonctionnent et qu'on a du mal à quitter. Voilà, c'est juste ça ce que je racontais quand je parle de corps documentaire et aussi d'être avec des gens dont l'humanité nous touche profondément parce qu'on va partir sur un gros bateau, que j'avais jamais eu un navire aussi gros et qu'en fait j'ai besoin d'être avec des gens où j'ai l'impression qu'on se comprend, qu'on s'écoute. Après je parle pas de la même manière avec aucun d'entre eux, personne n'a besoin de moi au même endroit, mais on sait pourquoi on est ensemble. Donc du coup, je me dis déjà, c'est ça de gagner dans ce gros bateau qui va quelque part, je ne sais pas exactement où, mais on va devoir y aller.
Le spectateur, il doit deviner pas mal de choses. Par exemple, Amouzin, bon, il a l'air quand même plus éduqué, plus cultivé que les deux autres. En même temps, il purge une peine de 20 ans. Donc on se dit, ce qu'il a dû commettre, c'est grave. Il n'y a aucune précision, très peu d'indications sur ce qu'ils ont fait pour se retrouver là.
En fait, déjà, moi, comme spectatrice, j'adore quand on me laisse la place de recoller des morceaux, d'un puzzle. Enfin, j'aime bien quand on ne me prend pas que par la main et qu'on travaille avec mon intelligence, j'adore. Parce que j'ai la place de me raconter plein d'histoires. Donc, effectivement, il y a plein d'indices disséminés dans toute l'histoire. Et même ce qu'ils ont fait pour être en prison, on peut plus ou moins dessiner les profils. Mais le but du film, c'est pas de demander au spectateur, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait ça, il a pris autant. Est-ce que vous pensez qu'il a le droit encore à la vie ou pas? Et c'est pas du tout ça que je demande au spectateur. C'est plutôt, est-ce que, comme les familles, vous pensez qu'on est tous capables de faire de la place à ces gens pour qu'ils aient la possibilité de continuer le reste de leur vie? C'est plutôt ça la question que pose le film, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas très grave, c'est juste, même au-delà de la question carcérale, il me semble très vite, c'est pas des détenus, c'est des pères, des maris, des enfants, et en se raccordant avec les familles, c'est comment on fait pour réapprendre à habiter tous ensemble, à cohabiter ensemble, à se pardonner, à se regarder sans se mettre dans des cases, à faire de la place pour la différence, se redonner le temps de se réapprendre, et c'est quelque chose qui pour moi est beaucoup plus universel que la question carcérale.
Une dernière question, comment est arrivé le titre « Temps mort » parce que c'est un terme sportif finalement, « Temps mort hein. ». C'est une pause, c'est une mi-temps, en même temps c'est un moment où on se pose un peu. Alors que là, il y a quand même un regain de tension, je trouve, pendant la parenthèse de liberté que vivent les trois personnages.
Trouver un titre, ça a plusieurs fonctions. Et par exemple, quelque chose que moi j'adore, quand j'ai vu un film qui m'a un peu retourné le bide, ce que j'ai essayé de faire un petit peu quand même, on se remémore le titre et du coup on le lit plus du tout de la même manière. Et il me semble que « Temps mort » au départ, on peut le prendre comme une pause de jeu. Et puis quand on en sort, on se demande ce temps mort, où est-ce qu'il est? Voilà.
Merci beaucoup.
Ben non, avec plaisir.